Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques. On pourrait dire, c'était du journalisme biblique. Alors, on va lire ce passage. Et il s'agit de l'histoire d'un roi d'Israël, un roi de Juda, précisément. Il s'appelle Ozias, et son nom veut dire, retenez bien, parce que vous allez voir un peu le paradoxe qui va ressortir d'ici quelques instants. Ozias, ça veut dire force de Dieu. Force de l'Éternel. Alors, il faut savoir si c'est la force de l'homme ou la force de Dieu dans notre vie. Alors, on peut commencer avec la force de Dieu et finir avec nos propres forces, ce qui peut-être et ce qui sûrement va nous amener à la catastrophe. Vous savez, c'est bien de commencer, mais il faut bien finir. Alors, c'est justement l'histoire. Et c'est une exhortation pour nous, pour notre foi, pour notre encouragement à rester fidèle à Dieu. Je suppose que vous êtes tout à fait partant pour rester fidèle au Seigneur. Voilà, bon, ben, c'est bien. Hein, je pense que quand on est chrétien, c'est ce que l'on veut. Après, il y a toutes sortes de circonstances qui sont là pour nous dissuader, des tentations, des épreuves, toutes sortes de choses. Mais quand tout va bien et que finalement, eh bien, on finit par abandonner Dieu, voilà ce qui se passe. Alors, on va le voir ensemble. Livre des Chroniques, deux chroniques. Hein, je ne sais pas si je vous ai donné le... Il y a deux livres. Voilà, 2 Chroniques, chapitre 26, verset 3. Donc, il s'agit d'Ozias, un roi qui a régné très longtemps sur le peuple de Juda. Et vous vous souvenez, force de Dieu, force de l'Éternel, son nom veut dire. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amadia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdoth. Et il construisit des villes sur le territoire d'Asdoth et parmi les Philistins. Dieu l'aida, entendez bien, Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Et il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, et un peu plus loin, il nous est dit qu'il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux. À l'époque, hein, il n'y avait pas l'adduction comme nous l'avons, l'adduction d'eau. Hein, on creusait des citernes, des trous, et c'est ainsi qu'on pouvait récupérer de l'eau pour l'usage des hommes, et puis aussi des animaux. Le verset 11 nous dit ceci, « Ozias avait une armée de soldats. » Un peu plus loin, au verset 13, il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias, verset 14, leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Et il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Ça, c'est la première partie de la vie d'Ozias. Tout va bien. Un homme formidable. Un homme d'une grande fidélité, un grand attachement à Dieu. Mais la suite, on va la découvrir. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Un petit peu plus loin, il nous est dit qu'ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et c'est son fils qui va devenir régent pendant des années et des années. Lui, il va perdre en quelque sorte l'usage de et le pouvoir de la royauté. Je voudrais commencer par un mot que vous connaissez, ça vous est certainement arrivé à un moment ou à un autre, d'avoir le vertige. C'est très agréable. N'est-ce pas? Alors, il peut provenir de différentes choses. Ça peut être finalement l'altitude, ce peut être la vitesse, ce peut être une anomalie dans notre corps, où quelque part, nous n'avons plus, où nous avons perdu l'équilibre, ou une insuffisance, finalement, qui fait que tout tourne. Voilà. On appelle ça le tournis. Enfin, populairement, hein. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent un peu le phénomène, c'est que tout bouge. Vous ne bougez pas, mais tout autour de vous, ça danse, et là, c'est vraiment très désagréable. Et moi, je voudrais vous parler de cet homme, Ozias, dont nous avons évoqué le nom il y a un instant. C'est que finalement, il se portait bien à un moment donné, mais il était pris de vertige. Parce qu'il y a des vertiges physiques, c'est une perte ou un manque d'équilibre. Alors on ne sait plus tellement où titube, on ne sait plus du tout où on en est rendu. Voilà. L'homme qui boit ou l'homme qui se drogue peut être atteint aussi de ce vertige. Hein. C'est plus du tout où il en est rendu. C'est plus où il en est. C'est une perte d'équilibre en quelque sorte. Vous savez que l'équilibre c'est quelque chose d'important dans la vie. D'ailleurs, pour nous-mêmes, pour marcher, pour faire beaucoup de choses. Il y a des choses qui demandent un bon équilibre. Hein. Il y a des métiers où il faut faire attention. Hein. On peut pas se permettre de danser d'un côté ou d'un autre. Donc ça peut être tout à fait physique, mais ça peut être moral. Perte d'équilibre, d'avoir des vertiges sur le plan moral. Et également des vertiges sur le plan spirituel. C'est ce qui lui est arrivé. Ce que je vous expliquais apparemment. On est peut-être choqué de savoir qu'à un moment donné, il est rentré dans le temple et puis il a voulu faire le travail du prêtre, du sacrificateur. On se dit, oh, c'est une banalité, il est roi. Mais vous allez voir que il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est qu'il avait perdu son équilibre. Non pas tant sur le plan de la moralité, ce qui ne nous en est pas parlé, mais sur le plan spirituel. C'est-à-dire que il était tombé dans un égarement d'esprit. Voilà, un égarement d'esprit, il ne savait plus. Il ne savait plus ce qui était bien, ce qui était mauvais. Il ne savait pas ce qui était juste et ce qui était injuste. Il ne savait plus ce qui était pur aux yeux de Dieu et ce qui était impur. Ce qui était sacré et ce qui était profane. Voilà. Un égarement d'esprit, en quelque sorte. Et vous savez que, et on en parlera d'ici quelques instants, là, dans le commentaire, hein, en quelque sorte, il était saisi d'une ivresse. Mais une ivresse, c'est pas qu'il avait bu, hein. Il avait consommé des substances alcooliques, c'est pas ça. Mais je dirais que le problème chez lui, c'était une ivresse de pouvoir, une ivresse en quelque sorte de succès, une ivresse d'autorité, et une ivresse, alors écoutez bien, une ivresse de bénédiction. Ah ! Alors on peut bien sûr perdre la tête, avoir un égarement d'esprit, lorsque, il y a ceci et cela qui apparaissent dans notre vie, mais avoir une overdose de bénédiction, ça vous arrive, ça? Hein? C'est quelque chose, hein? Parce que quand on lit la première partie de sa vie, on se dit, mais il est parfait, cet homme. Il est formidable, Ozias. Celui qui porte le nom en traduction, force de l'Éternel. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, il a bien commencé, ce roi de Juda, mais il a mal fini. Parce qu'il y a des pièges. Il peut y avoir des choses dans notre vie, même, et je m'adresse à vous, et même pour ceux qui commencent dans la vie spirituelle, c'est que, quelquefois, eh bien, c'est vrai qu'on se dit, mais les portes du ciel s'ouvrent sur nous. On prie et on est exaucé. Dieu nous donne ceci, il nous donne cela, il nous donne encore plus que ce que nous avons demandé, même ce que nous avons imaginé, vous rendez compte? Ça, c'était la question d'Ozias. Ça, c'est formidable, on voudrait bien être comme dans la première partie de sa vie. Seigneur, donne-moi, mais Seigneur, arrête parce que j'arrête trop. Voilà. Alors, c'est ça l'ivresse. C'est ça le vertige. Le vertige dont nous allons parler maintenant. Alors, dans le commentaire, je voudrais simplement dire quelques mots. Il est passé de l'élévation de Dieu, parce qu'il avait foi en Dieu, on va le voir, et il est arrivé à l'abaissement. Il vaudrait mieux commencer par l'abaissement et finir par l'élévation. Mais lui, il a fait le contraire. Et en raison d'une chose, un mot terrible, dont on ne mesure pas la puissance de destruction, parce qu'on le minimise, ce mot. Parce qu'on dit, bon, voilà, c'est un petit peu comme ça pour tout le monde, hein, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui fait mourir les hommes. Ouais. Parce que l'orgueil, c'est la passion. La passion de soi-même, son ego, d'une réussite, de quelque chose que l'on veut atteindre. Et on sent que ça pousse pour l'atteindre. Et on a du succès à l'atteindre. Et à un moment donné, eh bien, toute la difficulté et l'équilibre, c'est de rester humble. C'est de rester petit. C'est de rester simple. C'est comme ça qu'on arrive au bout. Et là, il n'a pas su. Alors, il nous est dit qu'il avait 16 ans. Il est venu à la royauté très jeune. Hein. Un roi de 16 ans, vous vous rendez compte, hein. Ouais, ce n'était pas encore un adulte, c'était un adolescent. Bon, il a dû certainement être aidé par tous ceux qui pouvaient un petit peu le briefer et puis l'accompagner. Ça, c'est certain. Mais ce qui est terrible, c'est que quelquefois, on dit les jeunes sont fougueux, ils sont fous, et puis les vieux sont sages. Mais là, on voit que c'est un jeune qui est sage, et quand il devient vieux, il devient fou. Le monde est à l'envers, hein. Et pourtant, la Bible nous dit, elle nous parle de la couronne blanche, la couronne d'argent des vieillards, parce que c'est la sagesse. Et là, nous avons exactement le contraire. Alors, il avait donc 16 ans, quand il est devenu roi, et il a régné 52 ans. C'est quand même, vous rendez compte, moi je connais plus d'un, enfin je connais pas vous, mais plus d'un président de la République qui aimerait bien rester 52 ans. Bon, imaginez-vous, hein. Ben, pas d'élection, hein, pas de consultation nationale, voilà, il est roi, il est assis sur le trône, pour le faire sortir, c'est autre chose. Hein. 52 ans, c'est un des rois d'Israël qui a régné le plus longtemps, figurez-vous. Ah oui, un des plus longs règnes, plus que David, 40 ans, plus que Salomon, 40 ans, plus que Saül, 40 ans, lui 52, c'est pas mal. Alors il nous a donné le nom de sa mère, voilà, donc... Et la première chose qu'il nous a dit, que la Bible nous rapporte un bon témoignage, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Pendant toute son adolescence, pendant toute sa jeunesse de roi, il y a une chose qui perdurait, c'est parce qu'il a fait tout ce qui était droit. Il s'appliquait dans son cœur à vivre sa propre piété, sa propre foi, mais aussi donner l'exemple à tout son peuple. Parce que quand on est roi, il faut donner l'exemple. Autrement, c'est pas... On n'est pas royal. On n'est pas royal quand on marche à côté de, finalement, de l'élévation en dignité qui sied à un roi ou un président d'une manière ou d'une autre. Donc il a marché d'une manière droite. Et il nous a dit entièrement, comme l'avait fait Amadia, son père, qui était le roi avant lui. Vous savez, les exemples, c'est formidable. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. J'espère que ça existe. Mais aujourd'hui, souvent, même s'il y a de bons exemples familiaux, on s'aperçoit que c'est comme si le conformisme extérieur est plus fort et il faut faire le contraire de ce qu'ont fait les parents. C'est vrai, il nous est dit dans le livre, des livres de Paul, de l'apôtre Paul, il nous est dit qu'ils seront rebelles à leurs parents. Et en tous les cas, lui, Ozia, lui avait vu les choses se faire du temps de son père, qui avait été un très très bon roi, Amadia. Un roi exemplaire. Donc, il savait, il avait compris que pour avoir la bénédiction de Dieu, pour avoir du succès, pour pouvoir être un roi juste et un roi bon, un vrai roi, eh bien, il fallait suivre le bon exemple. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a été, eh bien, qualifié finalement de que nous avons dit de droiture et un bon roi. Parce qu'il s'est appliqué, il y a des raisons pour ça, parce qu'il s'est appliqué à rechercher Dieu pendant la vie d'un certain homme qui s'appelle Zacharie. Un homme qui avait quelque chose de particulier. Il s'est appliqué, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas dispersé dans toutes sortes de choses, parce que quand on est roi, on peut faire beaucoup de choses. On peut se livrer à toutes les folies, si vous voulez. On peut dépenser de l'argent, on peut avoir, parce que l'or, les richesses, la compagnie, enfin tout ce que vous voudrez, vous pouvez l'avoir, vous claquez du doigt et tout le monde va vous le donner. Hein. Enfin, on va vous servir en tous les cas. Et il s'est appliqué, eh bien, à rechercher Dieu. Rechercher Dieu, c'est quoi? C'est pas, voilà, d'aller faire tous les coins et puis de dire oui, c'est pas ça. Rechercher Dieu, c'est vraiment le mettre dans notre cœur en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bien? Remplis mon cœur, finalement, de ce que toi, tu veux que je sois et que je fasse ou que je dise. C'est ça, s'appliquer à Dieu. C'est pas faire des choses extraordinaires, c'est pas essayer de monter au ciel. Non. C'est vivre notre vie, mais en donnant toujours cette orientation et cette direction de vouloir faire ce qui est bien et de s'éloigner de ce qui est mal. C'est ça, justement. Alors, nous voyons des choses nous présenter, mais il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider. Son père était mort, le roi Madia, un homme formidable. Et là, en Israël, il y avait un homme qui était un prophète, en quelque sorte. Il nous est dit qu'il s'appelle Zacharie et il avait l'intelligence des visions de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait l'intelligence de la pensée de Dieu. Il avait l'intelligence de ce que le commun des mortels ne pouvait pas savoir ou comprendre. Et lui, il savait ce qu'il fallait faire parce que ce prophète-là, qui était auprès du roi, jeune roi, était un homme qui pouvait lui donner les indications, qui était sage, indications prudentes, de savoir ce qu'il fallait faire dans toutes les circonstances. Alors, c'est vrai que c'était bien, il y avait le roi, il y avait cet homme qui avait les visions de Dieu. Mais c'est pas parce qu'il y avait un homme qui avait une considération spirituelle tout à fait particulière, des qualités spirituelles, que le roi pouvait lui dire, écoute, arrête avec tes visions, moi je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ce qu'il faisait, c'est que le roi était un homme qui savait obéir. Il était roi, il était au-dessus de tout le monde, mais il savait écouter ceux qui étaient aussi en dessous. Et cet homme, entre autres, Zacharie, était un homme qui pouvait le conduire pour faire ce qu'il fallait faire et plaire à Dieu. Il avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Ozias, Dieu le fit prospérer. Alors, c'est peut-être simpliste ce que je veux dire, mais quand même, quand on s'attache à Dieu, je dirais pas seulement quand même, mais quand on s'attache à Dieu, Dieu bénit celui qui lui fait confiance. Ça, il faut le dire, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mélanges et toutes sortes de choses et de confusions. Non, je dis qu'un chrétien, un homme qui s'approche de Dieu, même dans les premiers temps, et qui a compris que s'il veut être béni, s'il veut recevoir l'acquiescement de Dieu, eh bien, il faut finalement, eh bien, être comme nous l'avons dit. Il nous est dit qu'il rechercha l'Éternel. Et rechercher l'Éternel, c'est tout simplement connaître les promesses qu'il nous laisse, ses commandements, sa parole. C'est aussi prier, parce que c'est un dialogue entre nous et lui. Et à ce moment-là, eh bien, notre vie va changer. Elle va avoir des normes, elle va avoir des règles, elle va avoir des principes. Il va y avoir des choses fondamentales et essentielles dans lesquelles nous allons acquiescer parce que nous aimons la vérité, parce que nous aimons ce qui est juste. Et Dieu est juste, et Dieu est vérité. C'est ça, rechercher l'Éternel. Et Dieu le fit prospérer. Et nous allons voir sa prospérité. Oui, ça c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Si nous le voulons, parce que nous pouvons dire après tout ça, ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, comme tous les rois de l'époque, il y avait des guerres. Et les guerres, c'est l'image des adversités, c'est l'image des tentations, c'est l'image des épreuves, c'est l'image des tribulations, c'est l'image des ennemis et des adversaires qui nous envolent. Parce que quand il voyait le royaume de Juda, quand il voyait le roi, ce jeune roi, qui réussissait en tout, ça provoquait quoi? De la jalousie. Et on faisait la guerre. C'est pas lui qui faisait la guerre, mais c'est les autres qui lui faisaient la guerre. Alors il nous a dit qu'il se mit en guerre pour se défendre contre les Philistins. Et puis, il a fait ce qu'il fallait faire, hein. Et il nous a dit que dans ces combats et dans ces luttes, comme chacun d'entre nous, parce que nous recherchons Dieu, nous avons des combats et des luttes, parce que nous voulons faire la volonté de Dieu, eh bien il nous a dit que Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes, contre les Moabites. Et voilà, Dieu l'aida. Il aurait pu faire la guerre tout seul s'il avait dit « moi, j'ai pas besoin de Dieu ». Mais Dieu était avec lui. Et comme Dieu était avec lui, quand il faisait la guerre pour se défendre, eh bien Dieu bénissait finalement pour qu'il puisse être délivré. Et que il ne perde rien dans ces guerres. Parce que dans la guerre, on gagne ou on perd. Hein. De toute façon, il n'y a pas 36 situations. Il y avait même de ses ennemis, qui étaient ses ennemis, mais qui étaient peut-être un petit peu plus intelligents que les précédents. Ce sont les Ammonites. Ils faisaient des présents à Ozias. En disant, bah, écoute, hein, t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. On n'est pas de la même race. On n'est pas du même pays. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, on vient vers toi, comme ça se faisait dans toutes les cours du monde. Hein. Il apportait de l'argent, il apportait des animaux, enfin toutes sortes de choses pour essayer d'amadouer. Ben, ils étaient fins, mais c'était pas pour ça que c'était sincère. Hein, c'était pas pour ça qu'il y avait une vérité dans la... Et il nous est dit que sa renommée s'étendit jusque de l'Égypte. Alors à l'époque, ça représentait finalement eh bien une grande considération. On disait, mais le royaume de Juda, un petit pays de rien du tout, c'est même pas le pays d'Israël. Juda, c'est Jérusalem avec un petit peu tout autour, hein. C'est pas grand-chose. Et il était devenu vraiment le leader de la région. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, la Loire-Atlantique devenait vraiment le poumon de la France. Hein. C'est pas grand-chose, la Loire-Atlantique. Ben, c'était à peu près la même chose pour Juda, mais encore moins dans le territoire. Et il nous est dit que, à ce moment-là, il devint très puissant, et alors, comme il avait réglé les problèmes de ceux qui voulaient l'attaquer, il a construit des tours à Jérusalem, il les a fortifiés, il a bâti des tours dans le désert pour protéger, bien, tout autour, il a creusé des citernes, il nous est même dit qu'il aimait l'agriculture, il avait des vignerons, il avait des cultivateurs, etc., etc. C'est-à-dire qu'il prospérait. Il y avait une bénédiction qui arrivait comme ça. Ah oui. Les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que ça peut représenter, une bénédiction de Dieu. Vous savez, il y a ce texte que je cite assez souvent, parce que moi je crois que c'est aussi un pilier de notre foi. Il nous est dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Il y a des pseudo-bénédictions, c'est vrai, comme nous allons le voir, mais qui font pleurer. Ouais. Alors ça, ce ne sont pas des bénédictions. Et ce genre de pseudo-bénédiction, ça vient pas de Dieu. C'est l'homme qui a fait le mélange, en quelque sorte. Alors, il a prospéré, il avait des soldats, mais une grande armée. Il nous a dit qu'il y avait là des chefs d'armée, et il avait de quoi, finalement, parce qu'il s'était enrichi, le royaume s'était enrichi, et il nous a même dit qu'il leur procura eh bien, des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Aujourd'hui, on dirait porte-avions, cuirassiers, tanks, rafales, mirages, enfin, toutes sortes de choses. On parlerait comme ça. Hein. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'avoir une armée si bien équipée hein, et qui faisait certainement eh bien, la crainte des pays voisins et l'admiration d'un tel petit royaume qui finalement était au-dessus de la mêlée, en quelque sorte. Moi, que je pense, je dis la pensée comme ça. Regardez le peuple d'Israël aujourd'hui. Tout petit. On est grand comme la Bretagne. Hein, 3 départements français en gros. Et vous avez vu la puissance de feu qu'ils ont? À tel point que les grandes de ce monde reconnaissent que il y a quand même quelque chose. Hein. Hein. Et s'ils ont la paix les Juifs aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont l'arme de dissuasion. S'il y a longtemps qu'ils auraient été rayés de la carte. Ils ont été même les premiers après les Américains, les Français. Concurrence avec les Russes, à avoir la bombe atomique. On voit que c'était déjà quelque chose qui marquait finalement eh bien, le distinguo à faire entre les autres nations sans Dieu et le peuple de Juda, peuple d'Israël, vulnérable et petit, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de lui. Il nous est même dit d'ailleurs dans le Nouveau Testament que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui. Qui vous accusera, puisque c'est Dieu qui nous justifie? Qui pourra faire quelque chose contre les enfants de Dieu, ceux qui croient en Dieu, puisque c'est Dieu qui nous défend? Alors, voilà un peu où on en était arrivé. Il nous a dit que même il a fait faire une machine qui avait été inventée par un ingénieur. C'était pas un lance-pierre. Hein. C'était pourtant un lance-pierre, mais un gros. On pourrait peut-être dire qu'avant même le Moyen-Âge, il avait inventé le principe de la catapulte. Hein? Pour envoyer peut-être des pierres brûlantes, enfin toutes sortes de choses pour faire. Voilà. Donc il était à la. On pourrait dire qu'il était à la flèche, enfin la, à la tête de la technique pour l'histoire, pour le temps. Hein. Et puis voilà que la conclusion de cette première partie de la vie d'Ozias, c'était celle-ci. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut, et là moi j'aime bien le mot, hein, l'adverbe, merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Merveilleusement soutenu. Alors, quand si on s'arrêtait là, on se dit, mais quel homme de foi, quelle bénédiction de Dieu. Tout lui a réussi. Tout est venu vers lui. Et il a fait finalement l'admiration de tous ceux qui étaient autour. Et plus personne n'osait attaquer Ozias et Judas. Parce que ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils étaient en paix, hein. Ils étaient en paix. Il a été soutenu, mais qui le soutenait? C'est pas parce qu'il avait une armée. C'est pas parce que l'armée était bien équipée. C'est pas parce qu'il y avait ceci et cela, non? C'est parce qu'il y avait quelque chose de tout à fait particulier. Et voilà que nous en arrivons à la deuxième partie, où j'ai souligné tout à l'heure, l'élévation à l'abaissement. J'aimerais lire ce proverbe, enfin une partie de ce proverbe qui nous dit ceci, parce que c'est intéressant pour comprendre probablement et introduire la suite. Dans Proverbe chapitre 16 et au verset 16, écoutez bien. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Et je pense que Ozias avait eu le souci pendant toute sa jeunesse et la première partie de sa vie à faire la différence et avait accordé beaucoup plus d'importance à la sagesse et à l'intelligence que la richesse. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? C'était son cas. Le chemin des hommes droits, c'est éviter le mal, ce qu'il avait fait pendant toute sa vie. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. C'est ce que nous avons dit précédemment. Mais l'arrogance précède la ruine. Et c'est ce que nous allons voir. Et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit, écoutez bien, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ozias était un homme heureux. C'était un roi heureux en son royaume. C'était un peuple qui était heureux parce qu'ils avaient un bon roi et un roi qui aimait Dieu, qui était fidèle à Dieu. Il y a cette parole, j'y reviens, sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu. Et là, nous percevons déjà les prémices de quelque chose qui va changer. Soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Il va y avoir à l'intérieur de lui-même deux forces. Cette force de cette bénédiction de Dieu, de cette obéissance, de cette fidélité à Dieu, dont nous avons fait l'éloge. Et il y a, comme s'il y avait un petit verre dans le fruit, le mot puissance, pouvoir. Voilà. Il monte, il monte, il monte, et à un moment donné, il s'aperçoit de ce qu'il est devenu. De ce que son royaume est devenu en disant, mais je suis quelqu'un quand même, hein. Je m'en étais pas perçu avant. Il a peut-être dû se regarder un matin dans une glace en disant, qu'est-ce que je suis bon. Eh oui. Vous savez, quand on reçoit le message de Dieu, il y a deux choses. Il y a le savoir et le vivre. Le savoir et le pratiquer ce que nous savons. Vous avez, par exemple, dans le livre de Michée, ce sera la dernière citation, hein. La dernière citation, livre de Michée, vous le connaissez bien parce que vous pourriez le citer par cœur. Au chapitre 6 et au verset 8, hein, c'est Dieu qui parle. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. On l'a vu. Ce que l'Éternel demande de toi, parce que tu as été privilégié, parce que tu as été béni, parce que c'est vrai que tu as fait ce qui était juste et intègre, mais ce que l'Éternel demande de toi, le savoir et le vivre, c'est que tu pratiques la justice. Ce qui est juste, pas seulement devant les hommes, mais devant Dieu. C'est que tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire l'amour. Parce que sans amour, on n'arrive à rien. Et puis, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Ah! C'est bien le problème. C'est bien la mésalliance qu'il peut y avoir entre le pouvoir, la puissance, l'orgueil d'être parvenu, ça va très bien ensemble, avec Eh bien, la simplicité et l'humilité. Et c'est bien la grande difficulté pour les hommes. Et on le voit autour de nous, hein. Il y a des gens qui parlent de rien. Il y a des gens qui, peut-être avec la force du poignet, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas... Hein, c'est comme dans l'évangile, la parabole du riche, là, qui finalement dit maintenant, moi, ma vie, elle est accomplie, je vais pouvoir en profiter, hein, le laboureur, hein, ou le cultivateur, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y en a beaucoup qui arrivent, ils parlent de rien, et à un moment donné, ils se disent, mais, oh là là, je suis devenu, j'ai amassé un empire, j'ai réussi dans tel et tel domaine, et finalement, ils en oublient pourquoi ils vivent. Ils en oublient le but de la vie. Ils ne sont plus que pris par les moyens de la vie. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Profitons-en. Alors que finalement, nous avons été créés non seulement pour manger et pour boire, ça c'est sûr, hein, et Dieu n'est pas contre, mais il ne faut pas en oublier le but de l'existence. Nous sommes sur cette terre pour rencontrer Dieu, et pour être sauvés, être pardonnés de Dieu, et avoir la vie éternelle. Ça peut être un peu ringard, ce que je suis en train de vous dire, non? Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent sourire en disant, bah oui, mais quelle histoire, hein? Ben non, c'est pas une histoire, parce que nous avons été créés finalement dans ce but. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous soyons perdus, car Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez la suite. Hein? Alors, Michel, il nous rapporte que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est qu'il était devenu puissant. Est-ce que quand on est devenu quelqu'un, est-ce que quand on est arrivé au sommet, on peut rester comme un simple homme? La question, elle est là. Hein? Est-ce que finalement, on ne va pas se prendre la tête? Est-ce que quelque part, on ne va pas être saisi de vertige, comme je vous parlais, perdre l'équilibre, l'équilibre moral, comme Salomon, par exemple. Lui, c'était pas finalement ce que Ozia a fait, mais lui, c'était la richesse, c'était l'argent, c'était les femmes, c'était les chevaux, c'était toutes sortes de choses, jusqu'à finalement, eh bien, tomber dans l'idolâtrie et dans l'occultisme et dans la magie. Salomon, c'était terrible. Ah oui, il était devenu, il avait perdu la tête. Ouais. L'égarement spirituel. Salomon, c'était plutôt un égarement moral. Enfin, de toute façon, ça revenait à peu près au même. Et je poursuis. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est terrible. Moi, c'est un mot dans la Bible qui est choquant. Son cœur s'éleva pour le perdre. On n'est pas fait pour être perdu. On est fait pour être sauvé. Et c'est son cœur, c'est pas les autres. C'est pas son royaume, c'est pas ce qu'il avait, c'est pas ceci et cela. C'est son propre cœur. Parce que finalement, le cœur, c'est l'essentiel de l'homme. C'est la boussole qui nous indique toujours la bonne direction. Et quand la boussole, elle est déboussolée, ou démagnétisée, ben à ce moment-là, ça n'indique plus aucune direction. Elle tourne en rond. Elle est tournée, la boussole. Alors, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Et vous allez voir la nature du péché. Parce que, on peut pas dire qu'il a pris un harem. On peut pas dire qu'il a fait des guerres et puis il a massacré ses ennemis, etc. Pas du tout. C'est que tu aimes la miséricorde. Je pense qu'il devait être juste. Son péché est un péché tout à fait particulier, vous allez le voir avec moi. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Et ça commence de cette manière. Son péché est dévoilé de cette manière, il entra dans le temple de l'Éternel. Il pouvait y rentrer, hein, c'était juif. Hein. Il pouvait certainement aller aussi à toutes les cérémonies, et il était le premier à y aller. Il entra dans le temple de l'Éternel, il était le roi, il était le premier à y aller pour entraîner les autres. Il ne pêche pas à ce moment-là, mais... Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel, des parfums. Et là, je voudrais vous dire que son péché est un péché d'orgueil. C'est un péché d'une grande prétention. C'est un péché qui lui monte à la tête, qui devient une passion. Il devient fou. Il perd le contrôle de lui-même. Parce que dans la loi de Dieu, dans les commandements de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Dans le Nouveau Testament. Mais il y avait le roi, c'était la royauté qui avait été mise en place par Dieu, parce que la royauté, elle vient de Dieu. Hein. Donc c'était la royauté qui avait été mise en place. Et à côté, il y avait tout un sacerdoce. Il y avait toutes sortes de fonctions religieuses qui étaient réservées, non pas à tout le monde, mais qui étaient réservées aux prêtres, que l'on appelle dans l'Ancien Testament les sacrificateurs de Dieu. Voilà, sacrificateurs de Dieu, c'était les prêtres. Il y avait les lévites, il y avait les sacrificateurs, il y avait toute une classe comme ça. Et ils étaient les seuls à pouvoir non seulement rentrer dans le temple comme tout le monde pouvait rentrer, mais ils étaient les seuls à avoir l'autorité de Dieu et la fonction, le titre et la fonction de faire des offices, c'est-à-dire entre autres, qui était un acte de louange et d'adoration, brûler des parfums, d'action de grâce devant Dieu. Or, le roi était le roi, mais il n'était pas prêtre. Il n'était pas prêtre. Et lui, il a voulu, parce qu'il s'est dit, moi je suis roi, je peux tout me permettre. Lui, le problème, c'était pas de faire autre chose. Lui, il avait une obsession, à un moment donné, quand il a commencé à dégringoler, c'est de devenir finalement, eh bien, le grand sacrificateur, le grand prêtre d'Israël, alors qu'il était roi. Il n'avait pas le droit de ça. En quelque sorte, il s'est abusé lui-même. Quelquefois, on peut le trouver, excusez-moi, je vais être franc. Il peut y avoir des gens, des chrétiens qui disent, voilà, ils n'ont pas été appelés par Dieu, mais ils veulent être pasteurs. Ça pense que c'est. Ils ne pensent qu'à ça, pasteur, 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 etc. Ou ils veulent être pape, si vous voulez. Enfin, bon, la sélection est assez beaucoup plus rétrécie. Hein. Mais bon, toujours est-il qu'ils ne pensent qu'à ça que. Ils se disent, mais quand j'aurai ceci, quand j'aurai ça, j'aurai un titre, je serai certainement honoré, les gens se courberont devant moi, mais ça c'était l'histoire des pharisiens. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'orgueil religieux, c'est de l'orgueil spirituel. Et le roi ne tenait plus sa place à ce moment-là. Alors il s'est passé qu'il y a finalement eh bien une intervention de Dieu. Il nous est dit que le sacrificateur entra après lui, avec toute une troupe derrière lui de prêtres, c'était des hommes courageux, et ils s'opposèrent au roi et lui dirent « Tu n'as pas le droit de faire ce que tu viens de faire. » Eh oui, parce qu'il n'avait pas le droit de toucher à ça. Lui, il pouvait toucher à tout dans son royaume. Il avait le droit, mais pas ça. Il y a des choses, des frontières qu'il ne faut pas franchir. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher parce que ce sont des choses sacrées. Ce sont des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Et elle est réservée qu'à certains, ceux qui sont appelés pour ça, parce qu'on s'improvise pas, on peut pas s'improviser. Et ils diront, mais ce droit appartient aux sacrificateurs qui ont été consacrés pour les offrandes. On ne mélange pas les genres. On est roi, on a un royaume. Quand on est prêtre, eh bien on s'occupe du temple, on s'occupe finalement des choses de Dieu. Mais on n'a pas les deux. Il y en a qu'un, je vais vous dire ça comme ça en passant, il y en a qu'un qui a réuni les trois. La royauté, la sacrificature et également le prophète, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Jésus roi, les mages qui sont venus adorer en lui disant, voilà le roi. En ce qui concerne le sacrificateur, il est parce qu'à cause de l'expiation des péchés à la croix du calvaire, il a été lui au sacrifice. Il a donné sa vie. Hein. Et puis la prophétie, parce que finalement, il a été annoncé avant, quand il est arrivé une confirmation de toutes les promesses et toutes les prédictions avant, et aujourd'hui, et quand il est venu, il nous a laissé une foule de prophéties qui sont en train d'arriver maintenant et qui ont aussi couvert tous les siècles, jusqu'au moment où il va revenir. Jésus est prêtre, il est sacrificateur, il est prophète et il est roi. Il ne fallait pas toucher à ça. Alors, tu as commis un péché qui ne se retournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Et la colère s'empara d'Ozias. Alors c'est là justement où il y a le problème. C'est qu'on venait de lui faire une réflexion. On venait de lui dire, tu n'as pas le droit de toucher à ça. C'est pas ton rôle. Reste dans ton rôle de roi. Mais ne touche pas à ça. Parce que tu vas avoir de gros ennuis, non pas avec nous, mais avec Dieu. Tu es en train de changer finalement eh bien, la volonté de Dieu dans ce cas. Et là, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce qu'il dit, mais qui peut me dire quelque chose? Moi, je suis le roi. Et là, c'est l'erreur qu'il a fait parce qu'il aurait dû se reprendre. Il aurait dû dire, vous avez raison, je me retire et puis on n'en parle plus. Et comme il avait un encensoir à la main, il l'a balancé certainement sur la tête des autres. Ouais, oui, c'était un calme, hein, c'était un paisible. Voilà, il n'était pas... voilà, c'était zen. Hein. Alors, il a pris son encensoir et il a dû le mettre finalement, eh bien là, comme il s'irritait contre les sacrificateurs, contre ceux qui avaient le sens de lui parler au nom de Dieu et de lui dire « reviens à la raison hein, », il nous a dit qu'à ce moment-là, il y a eu un phénomène extraordinaire. Alors, pour l'époque, c'était quelque chose de très 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 fort, très marquant, mais d'un seul coup, il a eu la lèpre qui est venue. Vous savez que la lèpre, c'est l'emblème du péché hein, dans la Bible. Hein. Ces petites taches blanches qui sont partout comme ça et qui vont petit à petit se développer et vous réduire finalement eh bien, à un grand malade. C'est-à-dire que vous allez avoir les extrémités des membres qui vont disparaître, le nez, les oreilles, vous allez devenir défiguré. Et le péché, c'est quelque chose qui défigure l'homme, quelque part. Mais ça s'étend petit à petit. Toutes ces petites taches blanches vont venir et vont pénétrer dans le corps complètement et totalement. Et la lèpre éclatera sur son front en présence des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur lui a dit ceci, et ils lui ont dit donc, devant ça, ils lui ont dit ce qu'il fallait pas faire, qu'il avait fait. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Ça, c'est la lèpre dans ce cas-là. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui outrepassent, parce qu'ils sont devenus grands, parce qu'ils se sont pris la tête avec des titres, des fonctions, toutes sortes de choses, et c'est vrai dans le monde autour de nous. C'est pas seulement vrai parce que nous sommes en train de considérer un aspect finalement spirituel des choses. Mais à un moment donné, finalement, eh bien, ça les tue, ça se retourne contre eux. Alors, le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Parce que les lépreux, on les considérait comme des gens contagieux. Et même si c'était leur roi, il fallait le mettre de côté. Et il a été de côté, il a été mis à l'écart, et il fut exclu de la maison de l'Éternel. Quelle tristesse, être exclu. Comme peut-être il nous est dit que notre nom est inscrit dans le livre des vies, et quand il y a des promesses où il nous dit dans le livre de l'Apocalypse pour les fidèles, que Dieu n'effacera pas leur nom du livre de vie. Donc nous sommes déjà inscrits si nous restons fidèles. Et Dieu n'effacera pas notre nom parce que ce nom, il est déjà écrit. Et si nous restons finalement dans le cadre que Dieu nous veut, eh bien notre nom restera jusqu'à l'éternité. Et pour l'éternité, mais lui, il est exclu. Terrible. Ouais. Je termine par une chose. C'est une réflexion. L'expérience de la bénédiction divine, on l'a vue, on la connaît nous-mêmes. Donc l'expérience de la bénédiction de Dieu devrait inciter et nous inciter à rester fidèles à Dieu. Et non pas à dépasser en disant bah, « je suis béni, je pourrais être béni même en faisant le mal ». Certains l'ont pensé. Hein. Ou certains disent « moi j'abandonne Dieu » et puis bah, « Dieu continue à me bénir ». Oui, mais ça va durer jusqu'à un certain temps. Hein. Parce qu'à un moment donné, finalement, en poussant, eh bien, on va retourner les choses contre nous, et c'est très dangereux. Alors, on a parlé du vertige, du pouvoir, de la réussite liée à l'orgueil. Ça nous laisse à réfléchir. Ozias, était un roi, et il voulait mettre en plus de sa fonction royale, il voulait être Dieu en quelque sorte. Il y a des gens qui perdent la tête. Ouais. Il y a des gens qui s'en foutent. Un jour, il y a un matin, je vous l'avais déjà raconté, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, un jour, je prends le téléphone, un matin, quelqu'un me téléphone, et il me dit au bout du fil, je suis Jésus.
Bon.
Lui, il avait dû certainement glisser ce diable-là. Alors bon, quand j'ai vu ça, je lui ai pas dit, vous allez me raconter une petite histoire, une parabole, par exemple. Hein. Boum. Comme ça, il a compris que ça passait pas. Mais il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont pas bien dans leur tête. C'est terrible une chose. Et là, le problème, parce que même si c'était l'histoire de devenir, de pouvoir et d'aspirer passionnément à devenir prêtre, non, moi je dis qu'il était roi, mais il voulait devenir Dieu. Et ça ne pouvait pas aller. C'était terrible. Dans le livre des Proverbes, je finis. Au chapitre 18 et au verset 12, il est dit ceci. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ouais. Avant la ruine. Et pour lui, c'était la lèpre. C'était une maladie qui l'a frappé. Pour d'autres, ce sera autre chose. Pour que Dieu nous rattrape. Non pas que Dieu nous juge, mais qu'à travers peut-être une réprimande, ou à travers des choses qui, finalement, peut-être ont l'aspect d'une correction, c'est qu'à ce moment-là, nous reprenions, avant qu'il ne soit trop tard, et que nous revenions à Dieu. Comme le fils prodigue, qui a connu finalement la famine et la misère, mais lui, après, à un moment donné, quand il a vu dans lequel trou il était tombé, il est revenu vers le Père. Il est revenu vers lui en disant non, pardon. Alors, la ruine, là, c'est tout simplement la lettre pour dire, mais avant la ruine, il nous est dit dans ce texte, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Voilà. Précède la gloire. Et moi, je crois que l'histoire d'Ozias, c'est une histoire qui nous parle à chacun, parce que Dieu nous bénit. Et ça, Dieu va le faire, et Dieu va continuer à le faire. Mais attendez, ne tournons pas dans le vertige de la réussite de ceci, et de croire, parce que nous sommes chrétiens, que nous sommes meilleurs que les autres, de croire que nous sommes chrétiens, nous sommes au-dessus du panier. Alors à ce moment-là, nous allons devenir des pharisiens. Et les pharisiens, Jésus dit, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Hein? C'est la Bible. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, nous dit le Nouveau Testament. Et demandons tous les jours à Dieu, parce que Dieu bénit ses enfants, il bénit son Église, il bénit, c'est vrai, mais restons modestes, restons humbles, et restons en considérant que les autres sont au-dessus de nous, et que Dieu restera toujours au-dessus de tous, quoi qu'il en soit. Alors, nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien, et nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et de nous garder des vertiges, de la folie des hommes. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Quelle histoire que l'histoire de d'Ozias. Quelle histoire de voir un homme qui commence bien et qui finit mal. Quelle histoire tragique de voir, en effet, Seigneur, cette bénédiction intense qui descend du ciel et qui, véritablement, Seigneur, est véritablement une grâce d'exception, Seigneur, et qui, à un moment donné, parce que nous prenons conscience d'une réussite, d'un succès, d'une bénédiction, eh bien, nous en venons à penser que nous sommes Dieu et que nous pouvons tout nous permettre. Ozias, eh bien, a considéré à un moment donné que lorsqu'il est devenu très puissant, eh bien, il n'était plus suffisamment en satisfaction avec son royaume ou d'être roi. Il voulait toujours plus, toujours plus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est bien l'image de notre monde aujourd'hui qui est toujours insatisfait, toujours mécontent, toujours à se plaindre. Alors ça, c'est le monde et nous n'avons pas à le juger. Mais une chose qui est terrible, c'est lorsqu'il s'agit des chrétiens, lorsqu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un enfant de Dieu qui a reçu telle ou telle grande bénédiction et qui en oublie celui qui en est le donateur, et de vouloir à un moment donné, dans une ivresse, dans un vertige de folie et d'orgueil, penser que, eh bien, il se prend pour Dieu. Nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta parole. Qu'elle soit un enseignement pour tous, qu'elle soit une réflexion profonde. Et puis, si nous voulons te demander une dernière chose, garde-nous simples, garde-nous humbles, garde-nous modestes, Seigneur, à nos propres yeux et aux yeux des autres. Et devant toi. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu veux que, en effet, ce que l'Éternel attend de chacun d'entre nous, c'est que nous aimions la miséricorde, que nous pratiquions la justice et que nous marchions humblement avec et devant notre Dieu. Amen.
Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.